êtes en compagnie de Rukai Abdourahmane pour les 15 prochaines minutes. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 17h. À présent, les titres. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, l'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a battu celle de Djibouti sur le score 7-2. La réaction du coach du MENA, Jean-Michel Cavalli, dans cette édition. Les étudiants boursiers de l'État ont repris les cours en début de semaine après la suspension de leurs activités académiques dans les écoles professionnelles privées de Niamey pour non-paiement des frais de scolarité de 2017 à 2021. À suivre les détails. Dans notre rubrique de chaque mardi, Femmes et bien-être, on parlera du quota de 30% réservé aux femmes à l'occasion des nominations aux emplois. La lecture de l'ONG FAD sur la nomination de son 2 préfet, dont seulement 3 femmes au dernier conseil des ministres du 8 novembre 2021. L'équipe nationale de football du Niger, le MENA, a battu hier après-midi au stade général Sène Koundié de Niamey les requins bleus de Djibouti sur le score 7-2. Cette rencontre entre dans le cadre de la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. À la fin du match, l'entraîneur du MENA, Jean-Michel Cavalli, donne ses impressions au micro de Salamatou Kadri.
Ma carrière m'a appris qu'il ne fallait pas aller trop vite et que les bilans, on les tirait à la fin et qu'on tirait surtout les conclusions. Mais ma ligne de conduite, mon travail, ça a toujours été le même. On a fini en beauté. Avant de tirer le bilan, je vais quand même savourer les 4 points pris en 2 matchs contre le Burkina Faso qui va défendre aujourd'hui sa place pour les qualifications. Là, on fait un grand match. Je vous avais dit que le contenu du match de l'Algérie ne reflétait pas le score et on l'a prouvé. Aujourd'hui, sur un match qui n'était pas très facile au départ, à la base, vous en avez bien rendu compte, il faut surtout savoir que le Niger n'avait pas l'habitude de faire 2 prestations de haut niveau en 3 jours. Ben aujourd'hui, c'est arrivé. Mais c'est arrivé grâce à 14 mois de travail. On a su rectifier à la mi-temps ce qu'il fallait rectifier à la mi-temps et on s'est rapproché pratiquement de la performance de l'Algérie contre cette équipe puisqu'elle avait gagné 8-1. Donc il faut féliciter les joueurs parce que c'est quand même eux les acteurs. Surtout quand ils gagnent et quand ils perdent, nous, on essaye d'encaisser.
Les étudiants boursiers de l'État du Niger, suspendus la semaine dernière par leur institut et école professionnelle privée, ont finalement regagné les salles de cours en début de semaine, selon un responsable syndical. Ces étudiants et élèves ont été suspendus pour non-paiement des frais de scolarité par l'État de 2017 à 2021, selon les responsables de ces écoles. Garba Aboubakar Mahamad Modibo, le secrétaire général adjoint des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques de Niamey, UEPTN, est au micro de Tarnan Fouda.
Il faut d'abord savoir qu'il s'agit des arriérés des frais de formation de l'année 2015 jusqu'en 2021 et également les frais pour les élèves orientés du ministère de l'Enseignement professionnel qui a conduit les fondateurs des instituts à prendre une décision selon laquelle de suspendre ces étudiants boursiers. Nous avons lancé un mot d'ordre de 24 heures. C'est ainsi que le ministre de l'Enseignement professionnel nous a appelés pour un dialogue, pour nous donner l'évolution de la situation et enfin de prendre également certains engagements. Il nous a dit qu'il a écrit une note au Premier ministre pour lui faire la situation de ces étudiants boursiers. Il a rencontré également le fondateur des instituts et des écoles professionnelles, mais nous ne savons pas sur quelle base ou sur quelle clause ils se sont entendus pour que nos camarades regagnent leur salle de cours. Mais à l'heure où nous en sommes aujourd'hui, tous les boursiers qui ont été chassés ont regagné leur salle de cours.
La directrice de l'école AFN2, les 3 enseignantes et le gardien ont été relaxés hier par le procureur de Maradi après 4 jours d'interpellation. Après l'incendie qui a ravagé les classes en paillotes de l'école occasionnant 39 victimes, le personnel a été interpellé par la police pour être entendu. Pour l'heure, rien n'a été retenu contre eux selon le secrétaire général du syndicat SINASEP interrogé par notre correspondant. La campagne de lutte contre les inégalités lancée le 18 novembre 2020 par différentes associations et ONG au Niger a un an en 2021. Ces associations ont saisi l'occasion de l'élection présidentielle de l'année dernière pour remettre un manifeste composé de 10 inégalités les plus criardes aux différents candidats, leur demandant plutôt de s'engager dans la lutte. Un an après, le bilan avec Abdelkarim Abdoumadougou, le coordonnateur de la campagne de lutte contre les inégalités de la Fédération nigérienne des personnes handicapées. Il est au micro de Talata Abdou Bahar.
Nous prenons conscience que la question des inégalités, c'est, disons, un phénomène, un problème qui continue à nous tirer vers le bas. Le Premier ministre s'est engagé à prendre des mesures pour que les filles aillent plus longtemps à l'école, qu'elles bénéficient d'une scolarité sûre. Il s'est engagé pour que le Fonds national de soutien aux personnes handicapées, qui est un formidable outil de lutte contre les inégalités en lien avec le handicap et qui a été suspendu en 2008, il s'est engagé pour que ce fonds soit réouvert. Et nous sommes en train de faire le suivi, nous nous rendons compte que tous ces engagements sont en train d'être mis en œuvre. Donc là, c'est vraiment quelque chose de concret. Donc, à tous les niveaux, quel qu'en soit le rôle qui revient à ces candidats-là, ils ont un rôle à jouer dans la lutte contre les inégalités. Vous voyez, un candidat qui se retrouve aujourd'hui à l'Assemblée nationale et qui a signé cette charte, mais il a la possibilité d'avoir un œil à partir de l'Assemblée nationale sur ce que fait le gouvernement, ou un candidat qui se retrouve à l'opposition, il peut aussi jouer son rôle d'alerte.
La direction régionale de l'état civil d'Agadez poursuit le traitement de dossiers de 1700 demandeurs d'asile et de statut de réfugié au Niger. Parmi ces demandeurs d'asile, on compte 23 nationalités et les ressortissants du Sud-Soudan sont les plus nombreux selon le directeur régional de l'état civil des migrants et réfugiés d'Agadez. Ayouba Soukiradjou est au micro d'Anissé Karim.
Nous avons 1715 demandeurs d'asile et réfugiés répartis dans 1273 ménages. Ces réfugiés sont répartis en genre comme 315 féminins et 1400 masculins. En termes de nationalité, donc, ils proviennent de 23 nationalités différentes, dont le Soudan du Darfour a lui seul 1526, soit 89% de nos effectifs. S'agissant de la répartition par statut, je vais dire demandeurs d'asile à part et réfugiés. Nous avons, en termes de demandeurs d'asile, c'est ceux-là dont les dossiers sont dans le processus de traitement en attendant que la Commission nationale d'éligibilité au statut de réfugié se réunisse et se prononce sur leur cas. Ils sont au nombre de 971, soit 57%. Et ceux à qui l'État du Niger a déjà octroyé la protection internationale, donc le statut de réfugié, ils sont au nombre de 744, soit 43% de nos effectifs.
À la fin de la saison des pluies au Niger, le ramassage de la paille est une activité génératrice de revenus pour les producteurs. Souvent, ce ramassage est source de conflits entre éleveurs et agriculteurs, bien que régi par des procédures réglementaires souvent méconnues par les acteurs. Jibril Lamalankala, le président de la commission foncière du département de Difa, explique au micro de Mani Moussa.
Le ramassage de la paille, il y a des textes de loi qui précise comment il faut procéder à ce ramassage. Le ramassage est fait pour deux mobiles, soit pour donner à vos animaux, soit pour aller vendre. Si vous ramassez, vous entassez pour donner à vos animaux, il faut les sécuriser. Les sécuriser soit sur un arbre, soit vous faites un petit hangar ou quelque chose, en tout cas pas au ras du sol où les animaux peuvent faire des dégâts. Et on dit qu'il faut faire à proximité du village ou d'où vous résidez. Mais ce ramassage, on dit très bien de ne pas ramasser aux proximités des points d'eau. À côté d'un puits, jusqu'à 50 mètres, normalement, vous ne devez pas ramasser la paille. L'autre disposition, si vous ramassez pour vendre, si vous prenez ça comme activité génératrice de revenus, là, vous allez à la mairie. À la mairie, vous prenez un papier. Vous allez dire au maire, vous voulez ramasser de la paille. Le maire va appeler son agent de l'environnement, celui qui a la responsabilité de ça. Vous payez une certaine somme et l'argent là sera utilisé uniquement dans la protection de l'environnement pour faire des bandes parfaites.
7 morts et plusieurs blessés, c'est le bilan d'un grave accident de circulation survenu hier sur la route de Tillabéri au niveau du village de Sarakwara à 6 km de Karma en quittant Niamey. Une voiture de transport en commun communément appelée 19 places a percuté un camion tombé en panne sur le bas-côté du goudron. Le maire de Karma, Abbas Diallo Yakouba, relate les faits et appelle à la prudence. Il est au micro de Maman Ada.
C'est un véhicule Hiace avec à peu près 19 places. Il a percuté un camion qui était en panne à droite du goudron. Le véhicule a quitté Niamey pour Tera et a tenté de doubler un véhicule qu'on appelait Dogambaro. Sans faire attention, puisqu'il y avait un panneau triangle, il l'a pas vu et il est rentré à plus de 140 à l'heure selon les gendarmes. Il a fallu couper le véhicule pour l'extraire même du camion. Le chauffeur n'est pas mort, mais il y a eu sur place 6 morts. Une autre personne est décédée à l'hôpital, donc ça fait 7 morts. Les conducteurs de Hiace, là, vraiment il roule à tombeau ouvert. Et le camion qui était en stationnement est un camion immatriculé au Mali, il va à Gao. Donc il a une panne de frein. C'est vrai, il a mis les deux triangles, mais il n'a pas respecté les distances.
Aux dernières nouvelles, le bilan s'est alourdi. Il est maintenant de 10 morts selon une source hospitalière. Des femmes de la commune rurale de Tagazar, département de Balayara, se sont réunies en groupement pour mener certaines activités génératrices de revenus. Elles transforment le sésame blanc en savon qu'elles revendent ensuite lors des expositions-ventes. Écoutons les explications de Malama Hawa Haruna Mamoudou, vice-présidente du groupement Choukoura, au micro de Zainabou Abdou.
Le savon à base de sésame se fabrique de la même manière que les autres savons. Nous pilons le sésame que nous incorporons dedans et le remuons jusqu'à avoir du savon. Cela fait un bout de temps que nous en fabriquons. Nous les amenons avec nos autres produits quand nous participons aux différentes foires parce que les gens apprécient beaucoup ce savon et ils se vendent beaucoup. Nous sommes 38 dans notre association. Les 3 personnes ont été ajoutées récemment. Et chaque jour, nous avons des personnes qui veulent adhérer. Nous rencontrons des difficultés parce que le type de sésame que nous utilisons est très difficile à trouver. Il y a une ONG qui était venue nous en vendre. Nous en avons acheté et nous le cultivons nous-mêmes petit à petit car nous ne fabriquons pas de très grandes quantités de savon. Nous en fabriquons au fur et à mesure. Les gens l'achètent beaucoup. Le morceau est à 500 francs et il a la même taille que les savons de 100 francs divisés en deux.
Et puis la partie magazine de cette édition. Le Conseil des ministres du 8 novembre dernier au Niger a consacré la nomination de Sonde Prévé, parmi lesquels 3 femmes. Pourtant, la loi sur le quota au Niger recommande que 30% des postes nominatifs reviennent aux femmes. Pour l'organisation non gouvernementale Femmes, Action et Développement, ONG FADE Niger, cette sous-représentation des femmes aux postes de nomination est due à plusieurs facteurs. Écoutons Mariama Mamoudou Jibo, la directrice de programme de l'ONG FADE, au micro de Maman Ada.
C'est une appréciation peu réjouissante car on constate que le quota qui devrait accorder 30% des postes nominatifs est loin d'être respecté. On dirait même qu'il a été oublié et c'est dommage, surtout lorsqu'on sait que c'est le même parti au pouvoir qui, en décembre 2019, a rehaussé le quota jusqu'à 30%. Donc c'est un constat malheureux, malheureusement. Et ce n'est pas qu'au niveau des postes de préfet, justement, parce que même dans la composition du gouvernement, dans les différents postes stratégiques au niveau des ministères aussi, on constate que le quota n'est pas prise en compte, qu'il y a moins de femmes qu'il ne devrait y en avoir, donc c'est dommage.
Et selon vous, qu'est-ce qui explique cet état de fait?
Ça est à plusieurs niveaux. D'une part, il y a le manque de volonté de certains leaders politiques qui ne font pas suffisamment confiance aux femmes, qui ne veulent pas les nommer à des postes de décision. Il y a également cet intérêt de conflit au sein des partis politiques, mais il y a également la part de responsabilité des femmes.
Que faites-vous alors pour améliorer l'accès des femmes à certains postes de responsabilité?
L'ONG FAD est présentement dans une mission de plaidoyer auprès des décideurs pour justement la nomination des femmes. Et le ressort des différents échanges avec les leaders, qu'il arrive que les femmes ne veulent pas aller sur certains postes, notamment dans le cadre de la nomination des préfets. Nous avons eu des retours de la part de certains leaders politiques que des femmes à qui le poste de préfet a été proposé n'ont pas voulu y aller parce qu'elles ne veulent pas abandonner leur famille, elles ne veulent pas quitter Niamey. Or, généralement, ce sont des postes pour lesquels il faut aller dans d'autres localités, souvent des localités dangereuses, mais énormément de femmes sont réticentes. Donc le problème est vraiment à plusieurs niveaux et nous, en tant que femmes, nous avons déjà eu une discrimination positive qu'est le quota. Je pense que si nous voulons vraiment faire nos preuves, nous devons mettre de côté certaines exigences, sinon nous n'aurons jamais nos droits tels que nous les souhaitons.
Donc la balle est dans votre camp apparemment.
Il ne s'agit pas que de la responsabilité des femmes, mais c'est un mouvement d'ensemble. Donc si aujourd'hui nous femmes, nous avons le quota, on nous propose des postes de responsabilité, nous devons les accepter. Il y a des femmes qui, au-delà de l'aspect territorial, se croient incapables d'occuper certaines fonctions. Nous avons également eu ces témoignages de la part de leaders qui ont proposé à des femmes d'occuper des postes de responsabilité, mais ces femmes pensent qu'elles n'ont pas les aptitudes pour gérer ces postes. Donc en tant que femmes, nous devons avoir conscience de nos aptitudes, prendre le risque et oser accepter certains postes. Nous avons déjà eu le quota. Donc, lorsque nous avons des opportunités pareilles, nous devons faire des concessions. Ils doivent comprendre cela et vraiment saisir les opportunités qui leur sont offertes. Nous appelons les femmes à prendre leur avenir en main, sinon nous ne parviendrons à rien.
C'est c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.